Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shavua Tov, Chanukah Sameach.
Bonsoir, Shavua Tov et Chanukah Sameach.
Chanukah Sameach. Une émission un peu particulière ce soir puisqu'elle est à la fois consacrée aux fêtes de Chanukah, mais aussi à notre paracha, ce passage que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. Et vous voulez faire le lien entre les deux, Raveli Lemel, et nos sages font remarquer que dès le début de la paracha, on parle de mettre un terme à l'obscurité. Alors on pouvait difficilement trouver métaphore plus appropriée pour parler de Hanouka. Que disent nos sages, nos maîtres, et quel enseignement vous souhaitez en tirer, Raveli Lemel?
Oui, en effet, la paracha de Niketz dans laquelle on se trouve cette semaine, c'est une paracha qui est toujours dans l'univers de Chanukah. Évidemment, c'est que d'ailleurs, il y a bon nombre de parachutes dans la Torah qui sont toujours à proximité immédiate de certaines fêtes, et c'est pas pour rien. Et le Midrash du début de Chanukah, eh bien, de la paracha de Niketz, vous voyez, eh bien, elle démarre par les mots suivants: Ketz sam la chosher. Ketz, la fin, sam, il a mis la chosher à l'obscurité. En effet, ce midrash fait allusion à ce moment extraordinaire dans lequel, eh bien, Yosef, qui a été emprisonné, qui se retrouve pour 2 ans de prison de plus à l'intérieur des geôles égyptiennes, eh bien, du jour au lendemain, va se retrouver brusquement propulsé de la noirceur du cachot à la splendeur du palais du pharaon. Et non seulement il va se retrouver dans cet environnement totalement différent, mais eh bien, en quelques instants, il va devenir le vice-roi d'Égypte. C'est quelque chose d'absolument hallucinant, de complètement fou, ce qui est en train de se passer. Et le Midrash nous dit « Ketz sam la chosher ». Dieu, à un moment, met un ketz, met une fin, la chosher à l'obscurité. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses doivent s'arrêter, les choses difficiles doivent s'arrêter, eh bien elles s'arrêtent, ça y est, c'est terminé. Et en effet, ces 2 ans que Yosef avait passé en prison supplémentaire, parce qu'il s'était interrogé, il avait interrogé le maître Échanson pour éventuellement intervenir à son sujet chez le pharaon, eh bien ça y est, c'est terminé, maintenant on passe à une autre histoire. Et au fond, cette notion du ketz nous renvoie parfaitement à l'histoire de Chanukah. En effet, qu'est-ce qui se passe à Chanukah? Eh bien, on a cet empire qui est là, qui décide d'asservir spirituellement le peuple d'Israël, puisque rappelons-nous que ces xérotes, ces décrets ont été faits, ont été mis en place pour que le peuple d'Israël perde de sa substance, perde de ce qui est l'élément essentiel de ce qui constitue son identité, le rapport au Shabbat, le rapport à la circoncision, le rapport au temps, le rapport à l'étude de la Torah. Une fois que le peuple juif n'a plus ces notions qui sont présentes à l'intérieur de lui, eh bien, au bout d'un moment, de par le fait que cette ossature spirituelle n'est plus présente, eh bien, il s'écroulera par lui-même. Et puis, il va y avoir justement ce quête, cette fin brusque, puisqu'on voit très bien que quand les Maccabim vont commencer à déclencher cette révolte, rien a priori ne peut nous laisser imaginer qu'il va y avoir une telle réussite. On aurait dit dans nos sociétés que c'est un combat pour l'honneur. Et là, pas du tout. Les Maccabim, à un moment, ont dit « ça suffit, il y a quelque chose d'inacceptable, quelque chose que l'on ne veut pas ». Et c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement cet asservissement de l'Empire assyro-grec. C'est plus possible. Eh bien, maintenant, on passe à autre chose. Et on voit immédiatement la présence divine, puisque la totalité de leur victoire tiennent du miracle, et ces victoires préfigurent d'un autre miracle que l'on va voir, qui va être justement ce fameux miracle de cette fiole qui va brûler pendant 8 jours. Et moi, ce que j'aimerais au fond essayer de développer sur la base de cela, c'est tout le problème du désespoir. Le problème du désespoir, c'est que à un moment, l'individu pense que ça y est, ça n'ira pas, ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, il y a malheureusement des situations qui sont parfois extrêmement lourdes, surtout dans l'univers de la santé ou des choses comme ça. Mais sans rentrer dans des situations de ce type, parfois on est confronté à des situations de vie, on a l'impression que les portes vont se fermer, qu'elles ne se rouvriront jamais, que ça y est, on a loupé les choses. Eh bien, cette paracha et l'histoire des Hashmonaïm nous montrent que ce n'est pas dans le domaine du possible. Yosef, pendant ces 2 ans, n'est pas celui qui est complètement écroulé, abattu, il est celui qui essaye de réfléchir quelle est la leçon qu'il doit prendre de l'événement. Au fond, cette période de difficulté, elle est là pour l'aider à repenser les points qu'il doit travailler au regard de ce à quoi il est confronté. Les Maccabim, c'était un petit peu la même chose. Il y a eu toute cette époque pendant laquelle eh bien, ils sont asservis, et puis à un moment, ils réfléchissent, ils se disent « Non, là, il y a quelque chose de trop grave qui est en train de se passer. » Et donc, à ce moment-là, eh bien, on se doit d'agir. Et cette action, au fond, elle est miraculeuse parce que il faut avoir l'idée de vouloir défier l'Empire grec. Ils n'étaient pas fous. Ce n'étaient pas des individus complètement irresponsables. Donc, il fallait avoir cette idée de défier l'Empire grec. C'est quelque chose de totalement, a priori, inimaginable. Et pourtant, ils vont se dire « Non, il y a un moment où les choses ne sont plus possibles. Il faut que ça switch, il faut que ça… » Il y a autre chose qui se passe. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi au niveau de Yosef. Moi, j'aimerais m'arrêter un tout petit peu plus par rapport à Yosef, parce que Yosef, au fond, c'est celui qui aurait pu être dans le désespoir le plus absolu, parce qu'il est quelqu'un qui a toujours essayé de se comporter correctement. Il est quelqu'un qui, lorsqu'il était chez Potiphar, était extrêmement droit. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de faire les choses le mieux possible. Il est accusé de manière extrêmement injuste. Il a réussi à tenir son éthique et ses valeurs seul adolescent en Égypte, avec tout ce que représente l'Égypte de l'époque. Et il voit que, a priori, rien ne bouge, rien ne change, que l'histoire semble être pliée, c'est terminé pour lui. Et pourtant, non. Pourtant, non, cette histoire, elle va changer parce que, justement, Yosef, dans sa tête, n'a jamais cessé de croire à un futur. Même si ce futur, il ne pouvait pas encore imaginer quelle forme il allait prendre, mais il avait parfaitement compris qu'à un moment, il aurait un rôle, il aurait une responsabilité, il devrait assumer une place à l'intérieur de l'histoire du peuple d'Israël, et donc, ce moment allait arriver. Et je crois que c'est peut-être ça qu'on doit essayer d'inscrire à l'intérieur de nous. C'est un enseignement que sûrement beaucoup de personnes ont déjà lu au nom de Rabbi Nachman Mibreslav. Le désespoir n'existe pas. Alors, c'est sûr et certain que quand les gens sont confrontés à des situations qui ne sont pas simples, c'est facile de le leur dire. Mais les personnes qui le vivent, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que ça commence d'abord sur des petites choses. On se dit, on ne va pas réussir à faire cela. Et je vous donne un exemple tout simple. Après la Shoah, est-ce qu'on aurait imaginé que le peuple d'Israël allait pouvoir redémarrer son histoire? Est-ce qu'on imaginait qu'à un moment, l'univers de la Torah allait refleurir? Est-ce qu'on a imaginé qu'à Paris, un jour, on allait voir dans les rues des jeunes gens vendre des loulavim, des jeunes gens vendre des etrogim? Est-ce qu'on aurait imaginé à un moment voir des personnes seraient là pour mettre des téphilines à des personnes qui ne les ont pas encore mis? C'était inimaginable. Il y a ceux qui se sont dit « de toute façon, ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose ». Puis ceux qui, dans leur tête, ont dit « non ». Qu'est-ce que ça me la recherche ? Ce recherche, cette obscurité, cette absence de spiritualité, l'impression qu'au fond, les choses n'existent plus et ne pourront plus jamais exister, ne doit pas être présente à l'intérieur de notre esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Nous sommes confrontés aujourd'hui, en tant que peuple juif, à des défis incommensurables. Et ces défis sont avant tout la survie spirituelle de notre peuple. Car en effet, si on regarde, l'assimilation fait des ravages colossaux. Il y a de plus en plus de personnes qui ont tendance à s'écarter de leur histoire. Nous en voyons néanmoins par ailleurs qui s'en rapprochent. Et qu'est-ce Sam Lachosher? Évidemment qu'à un moment, ce Rocher-là va disparaître. Comment? Eh bien, je vais vous rapporter un enseignement que j'ai eu le privilège d'entendre très très récemment d'un des grands maîtres de notre époque, qui est un des fils du Rav Shlomo Zalman Urbach. Rav Shlomo Zalman Urbach a été le Rosh Yeshiva de Kol Torah, a été un maître exceptionnel, et tous ses enfants sont chacun dans leurs univers des maîtres et des références. Et un de ses fils, l'autre jour, me disait, tu sais, eh bien, on ne repousse pas l'obscurité à coups de bâton. On la repousse en faisant en telle sorte qu'il y ait encore plus de lumière. Et il y a peut-être ici une notion qui est fondamentale. Yosef, dans sa prison égyptienne, eh bien, développe encore sa lumière intérieure. Il raffermit de plus en plus tout ce qui a trait à la notion de la émouna, du bitachon, de la foi, de la confiance. Les Maccabim ont raffermi aussi cette foi et cette confiance dans le Créateur en étant prêts à démarrer quelque chose qui, a priori, ne pouvait pas aboutir, mais malgré tout, ils vont le faire. Eh bien, ça doit être la même chose dans ces univers, dans nos univers du quotidien. Être prêt à se dire, il y a maintenant une lumière à faire brûler avec plus d'intensité. Il y a une flamme qui doit éclairer, qui doit réchauffer encore plus. Et cette intensité, elle va dépendre de nous. A priori, l'histoire semble être complexe. Comment les choses pourront redémarrer? Eh bien non. Eh bien non. Et l'histoire est là pour nous le prendre. On a cette chance incroyable, comme le texte nous dit, Shel Avicha Viagetra, de pouvoir nous retourner sur un passé, de pouvoir observer et de se dire, au fond, ce que nous vivons aujourd'hui dans la dimension positive des choses est inimaginable. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a un travail à faire. Mais déjà, le regard sur tout ce qui s'est passé de manière positive est extraordinaire. Alors, soyons dans cet état d'esprit, qu'est-ce Sam Lachosher, qu'il y ait véritablement une fin définitive à cette obscurité, parce que nous y croyons profondément, parce que chacun et chacune d'entre nous va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir faire en telle sorte que cette lumière brûle de plus en plus. Et à partir de cela, évidemment, eh bien, nous entrerons de plein pied dans le processus de la Geoula définitive du Klal Israël, et à travers cela, eh bien, évidemment, une transformation radicale de ce qui se jouera dans l'humanité. C'est un petit peu cela, à mon sens en tout cas, que ce Midrash est en train de nous dire, et à la fois à travers l'histoire de Yosef, et en même temps à travers l'histoire de Hanouka.
Rabbi Lulemel, avec votre permission, je vais citer un homme qu'on n'a pas du tout l'habitude de citer dans notre émission. Vous nous avez donné des grands noms. Alors, je vais citer quelqu'un qui est le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. On m'a demandé qu'est-ce qu'il pensait sur la situation face au nucléaire iranien qui redémarrait. Il a dit, vous savez, à Hanouka, on ne sait pas trop c'est quoi le miracle. Est-ce que c'est qu'on a trouvé la petite fiole d'huile? Et alors moi, qui suis un de vos élèves les plus fidèles, puisque moi en fait je suis votre premier élève, je vous entends, c'est moi le premier qui entend ce que vous dites ici dans ce studio, je me suis dit, bah, il va dire, c'est soit on a retrouvé la fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours, soit la victoire sur les Grecs, c'est un grand classique de la question de Hanouka. Il n'a pas dit ça. Il a dit, le miracle, est-ce que c'est qu'on a retrouvé cette petite fiole d'huile? Ou est-ce que le miracle, c'est que quelqu'un l'a cherché? Et je me suis dit, waouh! Alors bien sûr qu'il tient ça de quelqu'un. Et il a répondu, il a dit, alors là, je vais vous dire quelque chose. Le miracle face aux Iraniens, c'est que nous, on cherche toujours les moyens d'arrêter leur programme nucléaire. J'ai dit, waouh! Alors moi, je suis journaliste, je ne suis pas érudit comme vous, mais je me suis dit, waouh, ça, c'est intéressant. Alors j'espère que vous me pardonnez d'avoir fait partager ce plaisir à nos auditeurs, parce que ce n'est pas du tout un rabbin, mais je pensais que c'était intéressant.
Hein, on n'est pas obligé d'être un rabbin pour parfois dire des choses exactes, et c'est vrai qu'être prêt à imaginer un monde des possibles et faire ce qu'il faut pour que celui-ci émerge, eh bien au fond, c'est une qualité qu'on doit cultiver chacun dans son univers, évidemment.
Ravi de Mal, je vous remercie. Shavuot Tov et Chanukah Sameach.
Shavuot Tov et Chanukah Sameach.
On part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, shalom, Chag Sameach.
Chag Sameach, bonne fête de Hanouka à vous qui êtes à Jérusalem, qui avez cette chance de faire cette fête. C'est tellement beau à Jérusalem. Je crois que ceux qui ont eu l'occasion de le partager ont vécu un moment exceptionnel. On continue à réfléchir sur notre paracha et sur Hanouka. Et d'ailleurs, vous voulez vous voir un peu avec un petit peu plus de précision, le lien entre Yosef et Hanouka.
Absolument. Commençons d'abord par les gématriotes, les valeurs numériques. Alors, bon, dans le domaine des valeurs numériques, on raconte toujours beaucoup de choses, mais il y en a qui sont rapportées par nos chachamim. Par exemple, Melech Yavan, le roi de Yavan, le roi grec, ça a la même valeur que Yosef. C'est la même valeur que Yosef. Alors c'est intéressant parce que Yosef lui-même, comme on l'a dit la semaine dernière, alors autre chose, avant d'aller plus loin sur, sur Yosef, autre point également qui est intéressant, Tzion, le mot Tzion. Tzion, ça fait référence à Sion également, mais ça fait référence également à la perfection. Share Tzion, Share Metsuyanim, en remèse, en allusion, ça fait référence à la perfection. Dans le mot Tzion, on trouve le mot Yavan, Yavan la Grèce, avec le Tzadé dedans. Alors le lien que nos sages établissent entre Tzion et Yavan et le Tzadé, il est le suivant. C'est que Yavan, la Grèce, ça a été une proposition qui a été faite à l'humanité de penser, mais de penser sans Dieu. De penser en évacuant complètement l'origine spirituelle, non pas la dimension spirituelle, parce que c'est difficile de penser et de faire marcher l'intellect sans se rapporter d'une manière ou d'une autre à des dimensions qui soient des dimensions spirituelles. Mais en chassant l'origine spirituelle de la pensée, en chassant l'origine spirituelle de l'humanité. Ça a été la première proposition dans l'histoire de l'humanité qui a été faite par les Grecs. Les Grecs, la civilisation grecque, apparaît lorsque la prophétie disparaît d'Israël. Lorsque la prophétie existait, nous disent nos sages, eh bien, Zelumadze Elohim, et Bara Elohim, il y avait une espèce d'effet miroir. La prophétie était là, l'évidence de Dieu était là. Et même les gens qui faisaient l'idolâtrie dans le peuple juif savaient très bien qu'il y avait un Dieu qui avait créé le monde, qui l'administrait, que le peuple juif avait un rôle particulier. Mais lorsque la prophétie disparaît, apparaît la Torah orale et apparaît la Grèce. La Torah orale, le premier homme qui va incarner la Torah orale, c'est Yosef. Pourquoi ? Parce que Yosef va devoir fabriquer, en quelque sorte en exil, il va devoir fabriquer une conduite qui lui permette de s'accrocher à la Torah. Et donc il va devoir lui-même se forger toute une série de règles éthiques, morales, face à la civilisation égyptienne, de la même manière que la Torah orale va être forgée à l'époque du Second Temple. Mais il faut le savoir pour nos sages, l'époque du Second Temple est en fait une préparation à l'exil que nous vivons encore aujourd'hui, car même s'il y avait le Temple, il n'y avait pas donc la présence divine dans le Temple. Mais revenons maintenant un petit peu sur le rapport donc entre Yosef et l'Égypte. Alors, quand on l'a dit, en fait, le Sefer Megaleh Amkot de Rabbi Nathan Shapira explique que l'exil grec, en fait, est une réparation spirituelle de la vente de Yosef. C'est-à-dire que lorsque Yosef a été vendu, les frères, en fait, ont refusé la royauté de Yosef. Qu'est-ce que c'est la royauté de Yosef ? La royauté de Yosef, c'est en fait l'expérience que les Juifs vont faire dans l'exil, l'expérience que les Juifs vont faire de l'espérance messianique et de l'étude de la Torah et de la perfection morale. Tout ça. Et Yosef, il a fait tout ça, la perfection morale, l'espérance de la délivrance. Et en fait, à la fin, quand ses frères se prosternent de lui, ils reconnaissent finalement que oui, on doit passer par Yosef, on doit passer par l'étape de la galoute, on doit passer par l'étape de la révélation de la vérité divine dans la galoute, dans l'exil, pour arriver donc à la délivrance finale. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant, lui-même Yosef, en quelque sorte, il a vécu, comme j'ai dit la semaine dernière, une époque de rochère, d'exil. Et ensuite, à la fin de cet exil, apparaît la lumière donc de la délivrance. Qu'est-ce que c'est finalement Yavan ? Yavan, c'est Rocher. Nos sages appellent l'exil de Yavan Rocher, l'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité pour nos sages ? C'est pas seulement l'absence de lumière, c'est une lumière qui aveugle. Et c'est très intéressant parce que la lumière de Yavan, la lumière de la pensée grecque, c'est une lumière qui a aveuglé jusqu'à nos jours. On va dire pratiquement jusqu'à la Shoah, les différents exils du peuple juif, que ce soit à l'époque du Rambam, Maïmonide, qui va devoir combattre par le guide des égarés ceux qui s'égarent précisément en suivant la philosophie grecque, ou plus tard, Rav Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne, qui va combattre ceux qui s'égarent en suivant les voies de l'assimilation en Allemagne. On voit très bien que les philosophes allemands, comme Nietzsche par exemple, font beaucoup référence à la philosophie grecque. Et on voit très bien que le mode d'assimilation qui va être pratiqué par les Juifs allemands, eh bien, ressemble étrangement à ce mode d'assimilation qui était proposé par la Grèce ou la civilisation grecque, donc au moment à l'époque de Pourim. Alors, je vous invite pour ça à regarder aussi quelque chose de très intéressant, c'est une parenthèse sur ToraBox. Il y a un article sur Zvi Haber. Zvi Haber était un savant allemand, juif allemand, qui a été à l'origine des armes chimiques utilisées donc par l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il va être décoré, ça va être le patriote par excellence, et finalement à la fin il va devoir s'enfuir, et il meurt en 1934 dans sa fuite d'une crise cardiaque, parce que Hitler finalement, malgré le fait que c'était un grand patriote, ne voulait pas de lui, et finalement il va être à l'origine de la fabrication du Zyklon B, qui va servir donc pour l'extermination donc de Am Israël, une partie de Am Israël pendant la Shoah. Donc c'est un juif qui est séduit par les lumières, entre guillemets, de l'Occident, qui s'aveugle par ces lumières de l'Occident et qui devient lui-même artisan d'un objet qui est un objet de destruction pour sa propre famille. Ses oncles, ses tantes, ses cousins vont être exterminés par le gaz que lui-même a mis au monde dans son élan de fierté pour participer donc à l'effort de guerre allemand. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que ça je vous dis quand ils disent « Rocher, c'est quoi ? C'est pas seulement l'obscurité, c'est une lumière qui aveugle. » Beaucoup de juifs tout au long des âges, et notamment dans l'exil, dans le dernier exil que nous vivons aujourd'hui en Allemagne et aujourd'hui en Amérique, se sont laissés aveugler par les lumières de l'Occident. C'est même notre histoire à nous-mêmes, à nous. Même nous, juifs, séfarades, qui sommes venus d'Afrique du Nord et qui sommes venus en France, et combien d'entre nous ont suivi les lumières françaises et ont été aveuglés par ces lumières françaises au point de devenir fous, de se retourner contre leur propre histoire, contre leur propre peuple, de devenir cruels. Politiquement, idéologiquement, à l'égard de leur propre peuple, comme ce Zvi Haber là, parce que finalement, cette philosophie, elle est séduisante, elle représente une lumière, mais elle représente une obscurité parce qu'elle aveugle. Et Yosef, bah, c'est l'antithèse de cela. Yosef, c'est celui qui va savoir très très bien se maquiller, se faire beau. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui veut que la Torah rayonne. Il veut que la Torah rayonne. Et il va, fort de cette beauté, se retrouver en Égypte, mais il va préserver son intériorité lorsque la femme de Potiphar va tenter de le séduire et donc de le faire chuter. Il va savoir se ressaisir, il va savoir se retirer, il va rester Yosef HaTzadik. Et donc, en fait, on a ici deux personnages. On a le personnage de Yosef qui nous indique comment finalement rayonner, comment faire rayonner la lumière de la Torah, de la spiritualité dans l'exil. Et d'un autre côté, eh bien, toute cette cohorte de juifs tout au long des âges qui se sont complètement assimilés, aveuglés par les lumières, entre guillemets, de la pensée occidentale, pensée grecque, et qui finalement sont devenus des ennemis de leur propre peuple. On le voit encore aujourd'hui à l'heure qu'il est, là, quand je suis en train d'enregistrer, pendant Hanouka 5782. Combien de juifs aujourd'hui sont aveuglés par cette lumière du matérialisme occidental ? Parce qu'il n'y a plus de pensée occidentale aujourd'hui, il y a le matérialisme occidental et il y a la possibilité de faire carrière. Combien de gens sont aveuglés par cette envie de faire carrière, par cette envie de trouver une place, par cette envie de rayonner dans la société occidentale, et finalement sombrent dans l'obscurité la plus totale et ne sont plus finalement qu'un pâle reflet de ce qu'était la lumière du peuple juif lorsque les lumières de Hanouka donc éclairaient le peuple juif aujourd'hui. Ce n'est pas le reflet de ces lumières-là. Zelumat Zemar Elokim. Il y a ces petites lumières-là qui sont là et qui continuent d'éclairer. De l'autre côté, cette obscurité qui est véhiculée par ceux qui s'assimilent. Et c'est un temps pour terminer. Je vais rappeler une anecdote que j'avais citée l'année dernière à Hanouka, et je veux la reciter encore cette année. Il y a un homme, une fois, qui raconte qu'il s'est retrouvé pendant... Hanouka tombait en même temps que Noël. Alors, il s'est dit finalement, ma lumière... Elle est claire. En quoi ma lumière est claire ? Il voyait les sapins de Noël, il voyait toutes ces lumières flamboyantes, c'était à New York. Puis d'un seul coup, il y a une panne d'électricité. Et le monde a été plongé dans l'obscurité. Et les seules lumières qui continuaient d'éclairer, c'était les lumières de Hanouka. Alors il a dit ici, j'ai compris la force de Hanouka, j'ai compris la force du peuple juif, j'ai compris la force des lumières de Hanouka, j'ai compris la force du Or Haganouz, de cette lumière qui est tapie dans la Torah, c'est que dans l'obscurité, dans la folie de l'obscurantisme occidental, eh bien finalement ces lumières elles continuent d'éclairer à la fois le monde et la neshama du peuple juif. Alors à toutes et à tous, Chag Sameach dans la voix de Yosef qui nous a montré l'exemple depuis l'exil égyptien.
Amen. Et on va essayer d'avoir des lumières qui sont bien nourrissantes, bien chaudes, bien chaleureuses, comme à Hanouka au moment en plein hiver. Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Chanukah Sameach.
Chanukah Sameach. Shabbat.
Maria Chadré est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Maria Cha.
Bonsoir, Shavuot Tov.
Et Chanouka Sameach. Bonne chose en ce soir pour notre émission Melaveh Malka. Et on continue notre réflexion avec vous, Maria Cha. Vous vous dites, l'histoire de Yosef, en fait, quelque part, c'est l'illustration que... C'est une idée aussi sur une réflexion sur l'idée d'être seul. On n'est jamais seul. Et pourtant, c'est probablement l'une des plus grandes angoisses de l'homme, être seul. Et c'est seul ou oublié que tu voulais faire, Maria-Cha?
Oublié, mais c'est pas grave, je peux rebondir, c'est pas grave. Oublié, tu verras pourquoi.
J'ai oublié.
C'est pas grave, vas-y, reprends.
La paracha de cette semaine pose aussi une question autour de Yosef, c'est l'idée d'être oublié. Et au final, vous avez envie de nous dire ce soir qu'on n'est jamais oublié. Et pourtant, c'est probablement l'une des plus grandes angoisses de chacun. Donc, être oublié, je ne veux pas être oublié. Et cette paracha, notre paracha, répond à cette question fondamentale de chacun d'entre nous.
C'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, elle s'ouvre certainement dans le contexte, je pense, le plus triste qui puisse être donné par la Bible. La situation, le contexte le plus triste qui soit, c'est que le dernier mot de la paracha précédente, c'était « et il a été oublié ». Vaishkachehu. On parle de Yosef, bien sûr, qui est oublié dans un cachot égyptien dans lequel il est enfermé pour un crime qu'il n'a pas fait. Rappelons-nous qu'il est en Égypte parce qu'il est vendu par ses frères, pour également des intentions qu'il n'a pas, de mauvaises intentions qu'on lui prête qu'il n'a pas. C'est-à-dire que la vie de Yosef depuis ses 17 ans, n'oublions pas qu'il est orphelin de mère en plus, mais en tout cas, depuis ses 17 ans jusqu'à l'ouverture de notre paracha où il a déjà 30 ans, ça fait donc 13 ans que Yosef vit la plus triste histoire qui puisse être donnée de vivre. Abandonné de tous, oublié de son père. Il ne sait pas que son père le croit mort, hein, donc il se dit « Papa m'a oublié, mes frères ne regrettent même pas leur action, ils m'ont oublié. » Et puis, je suis ensuite, comme si ça ne suffisait pas, accusé d'un viol que je n'ai pas commis. Je suis à l'intérieur de ce cachot égyptien et j'ai demandé à quelqu'un de se souvenir de moi. En l'occurrence, il s'agit du maître Eschanson. Et il l'a oublié, Vaishkachehu. Et du coup, l'ouverture de notre paracha, c'est Miketz. Miketz au bout. Et je crois que ce bout-là, il est en train de parler de toutes les personnes qui sont au bout. Au bout de leur vie, au bout du rouleau, au bout de leurs attentes, au bout de l'espoir. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout? C'est cette question-là que pose la paracha. Et on ne peut pas être plus au bout que Yosef. Alors, que fait Yosef? Yosef qui a été oublié, eh bien, il va tenter de sombrer dans l'oubli. Il va se dire, eh ben, alors moi aussi, il faut que j'oublie. Puisqu'on m'a oublié, il faut que j'oublie. Et alors, quand il est enfin sorti de cette prison, et contre toute attente, la transformation est absolument magistrale, de cette situation du dernier des oubliés du monde, il devient juste premier ministre de la plus grande puissance mondiale. Donc c'est la transformation la plus inattendue qui soit, c'est l'intervention de Dieu dans toute sa splendeur, et là, alors qu'il est du coup au sommet, il va tant oublier. Il dit « puisqu'on m'a oublié, je vais oublier ». Il épouse Osnat, dont il a deux fils. Et le premier fils, je trouve, est très représentatif de l'état d'esprit dans lequel est Yosef à ce moment-là. Parce que son premier fils, il le nomme Menaché. En fait, il est le Béchor, hein, c'est le premier-né. Alors, pourquoi s'appelle-t-il Menaché? Il l'explique, hein, Yosef, quand il nomme son fils Menaché, il dit « Ki nashani Elohim, parce que Dieu m'a fait oublier. Alors quoi? Eh bien, toute ma souffrance est la maison de mon père. » C'est-à-dire que paradoxalement, Yosef nomme son premier fils du nom de l'oubli, de ce qu'il veut oublier. Alors c'est paradoxal parce que s'il appelle son fils oubli, ben peut-être qu'il se souviendra encore plus de tout ce qu'il veut oublier. Mais quoi qu'il en soit, on sent ici une volonté très très forte de dire « ça y est, je passe à autre chose, j'oublie. Aujourd'hui ma vie elle va mieux, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'oublie ». Et il est évident que, voilà, on peut retrouver dans ce comportement des comportements que nous connaissons, qui nous concernent. Quand on a envie, on n'a toujours pas réglé des problèmes majeurs de notre existence et qu'on se ment à nous-mêmes et qu'on dit « mais je suis passé à autre chose, ça y est, je vais bien, j'ai oublié ». Alors, je ne sais pas moi, les défaillances de mon père, de ma mère, de ma famille, de mon travail, de que sais-je. Et en réalité, non, il n'en est rien. On ne peut pas oublier notre histoire, on ne peut pas oublier des souffrances importantes de notre vie. Et il va donc tenter cet oubli, évidemment. Il va se souvenir. Alors, qu'est-ce qu'il va se souvenir ? Bien, quand ses frères arrivent en Égypte pour acheter de la nourriture et qu'ils se... Souvenons-nous, il y a une grande famine en Canaan, enfin partout, et les frères viennent acheter du blé, ils se prosternent devant lui. Et puis là, va y score Yosef. Yosef se souvient. Tout d'un coup, ben, tout ce qui est refoulé, dirait-on aujourd'hui dans les termes modernes, tout ce qu'il a refoulé va émerger à nouveau à la surface. Il se souvient parfaitement de ses rêves, de son histoire, de sa vie d'avant, et du fait qu'il a été tellement détesté et tellement oublié. Et finalement, on va voir qu'il se souvient de tout parfaitement, puisqu'il va réécrire l'histoire de sa propre histoire. Il va être le metteur en scène d'un scénario absolument exceptionnel, dans lequel c'est Binyamin, c'est son petit frère Benjamin, qui va jouer le rôle de Yosef, et il va mettre à l'épreuve tous ses frères volontairement pour voir si réellement eux ont pu avancer, faire teshuva, et dans quelle mesure on peut finalement leur faire confiance, et ils vont pouvoir, eux, les enfants de Léa, protéger le fils de Rachel. Et donc, il remet tout ça en jeu. Et en effet, la semaine prochaine, on verra à quel point il pourra se réconcilier. Il sera à même de faire, je crois, ce qui semble, en tout cas à nous, lecteurs inhumains, cette réconciliation incroyable entre Yosef et ses frères, qui finalement réalisent que peut-être que oublier, c'est pas la meilleure des choses et qu'au contraire, il faut se souvenir et garder en mémoire. Et en fait, tout ceci est tout à fait lié à l'histoire de Hanouka que nous vivons. Vous savez, chaque année, l'histoire de Yosef et ses frères est lue dans les synagogues, le Shabbat d'avant et le Shabbat de Hanouka, le Shabbat d'après. Donc vraiment, Hanouka tombe en plein dans cette histoire tragique et finalement qui se termine par cette réconciliation merveilleuse. Et ce n'est bien sûr pas un hasard, puisque vous savez, dans le texte d'Alanissim que nous lisons, on dit à l'époque Bimé Matityahu, à l'époque de Matityahu, le fils de Yohanan, le Kohen Gadol, eh bien, ils ont lutté. Ils ont lutté contre la civilisation grecque. Et cette civilisation, pourquoi il fallait lutter contre elle ? Parce que ce qu'elle souhaitait, dit le texte, les Hafkicham Torah Techa, elle voulait nous faire oublier la Torah. Et là encore, ce thème de l'oubli qui apparaît. Nous devons ni nous sentir des oubliés, ni nous-mêmes oublier. On ne doit pas oublier qui on est, et on voit que Yosef, tout au long de cette histoire, n'oublie pas finalement qui il est en cohérence avec ses valeurs. Rappelons-nous l'histoire de la femme de Potiphar qui a tenté de le séduire. Donc il n'oublie pas qui il est, et il essaye même de nous donner des clés, des éléments pour que nous aussi, nous sachions que nous ne sommes pas des oubliés, même si on est miquette, si on croit qu'on est au bout, et qu'on se souvient. Et finalement, la flamme de Hanouka, c'est certainement cette mémoire. Je dirais que c'est le premier devoir de mémoire d'un juif, le tout premier, avant toutes les histoires tragiques d'Israël. Son premier devoir de mémoire, c'est de ne pas oublier d'où il vient et vers où il va. Et ces flammes de Hanouka, rappelons-nous que Hanouka arrive, c'est la fête qui arrive au moment où il n'y a plus de prophétie, et au moment finalement où Dieu se tait, est muet, disent les sages, il ne nous parle plus. Et on a l'impression qu'on vit dans un monde où le monde entier a un fonctionnement, le fonctionnement occidental aujourd'hui, qui repousse la croyance en un Dieu unique. Et le fait que Dieu se taise, on a l'impression que c'est une forme d'une façon de consentir à cette réalité ambiante. Et finalement, cette flamme de Hanouka vient nous rappeler que nous ne sommes pas oubliés, ni de Dieu, ni de nos proches, et qu'en réalité, Dieu nous parle, mais à nous de tendre l'oreille. Et vous savez, Hanouka, c'est la fête des miracles, et les miracles sont très subjectifs. Je pense que si vous interrogiez Ça peut être l'idée d'une émission, un soir, de les interroger et de leur demander « Avez-vous vécu un miracle ?» Mais je suis certaine que vous recevriez énormément d'appels de personnes qui veulent raconter leur miracle de façon tout à fait subjective. Nous avons nos propres interprétations de nos miracles qui correspondent finalement à notre vision d'un moment de notre vie, d'un événement de notre vie dans lequel on a senti que Dieu s'est adressé à nous. À nous de façon personnelle et intime. Et finalement, je crois que ce qui fait que Yosef est à même de se souvenir de son histoire et de savoir qu'il n'est pas un oublié, malgré le nom de son premier fils, Ménaché, eh bien c'est parce que tout au long de sa vie, il y a eu Dieu qui s'est rappelé à lui. Tout ce qu'il faisait, il réussissait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette capacité-là à donner des interprétations positives à la vie, à lui à qui il arrive des choses négatives, eh bien il est capable de donner des interprétations. Et cette capacité qu'il a, c'est la capacité finalement à se savoir ne pas être un oublié. Et je crois que c'est ça le message de Hanouka et de Yosef. Quelles que soient vos épreuves, quelle que soit l'obscurité peut-être dans laquelle vous êtes à un moment, sachez qu'on ne vous oublie pas. Sachez que vous n'êtes jamais un oublié. Alors vous aussi, n'oubliez pas qui vous êtes et sachez que vous n'êtes pas des oubliés. Voilà, c'est le grand message, je crois, de Hanouka.
Mais message de Hanouka, je vous entendais en tout début de votre dracha, de votre intervention. Vous disiez, il est au bout de son désespoir, au bout de sa vie. Je me suis dit, il est au bout de la nuit. Et peut-être que comme ça, la boucle est bouclée, on revient sur Hanouka qui repousse l'obscurité. Et j'ai lu récemment une très très bonne traduction du mot. Vous savez, on dit toujours Dieu, enfin on traduit comme ça. Et Dieu s'est souvenu de Yosef, et Dieu s'est souvenu de Noah. Et tout d'un coup, Dieu se souvient, comme si Dieu pouvait oublier ce souvenir, ce qui est typiquement le genre de traduction qu'on fait, parce qu'il faut bien que nous on comprenne un peu juste ce que ça veut à peu près dire. Et j'ai lu une très très bonne traduction dernièrement disant et Dieu s'est souvenu, non, et Dieu a cessé d'ignorer. J'ai trouvé ça pas mal, je dis, c'est plutôt comme ça qu'il faut lire les choses, et Dieu a cessé de l'ignorer. Voilà. Voilà, je me permets juste un petit mot comme ça. Maria Chadré, je vous remercie.
Merci à vous, Chag Sameach. Voilà, j'invite les auditeurs à profiter de la 8e bougie Hanouka. Vous savez que le chiffre 8, c'est le chiffre du miracle. Et on dit vraiment que les prières faites devant les bougies Hanouka, et notamment le 8e jour de Hanouka, sont des prières qui ont une force absolument immense. Vraiment, c'est un ascenseur spirituel. Et il y a beaucoup, beaucoup de délivrances qui ont lieu grâce à ces prières.
Ah, eh ben on va y penser. On va y penser. Au-delà de la nature. Maria Chadré, je vous remercie. Bonsoir à vous. Hanouka Sameach.